vos manettes. Quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Bien le bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission de Cordialement Geek. Cette semaine, je vais vous parler du jeu Xenoblade Chronicles Definitive Edition. On parlera des tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, du news concernant un futur jeu Koh-Lanta. Oui, j'aurais pu vous parler de la PS5, mais non, j'ai préféré vous parler d'un jeu de Koh-Lanta. Voilà. On aura ensuite une petite news technologie avec le premier œil bionique 3D au monde qui serait capable de donner une vision surhumaine et nocturne. Et on finira avec les sorties jeux vidéo de la semaine. On commence donc avec Xenoblade Chronicles, l'édition définitive, ou Xenoburaido en japonais. Donc c'est un jeu vidéo de type action RPG, jouable en solo, qui a été conçu par Tetsuya Takahashi, Ko Kojima et Genki Yokota, pardon, avec la musique que vous entendez de Yoko Shimomura, Manami Kiyota, Ace Plus et Yasunori Mitsuda. Le jeu a été développé par Monolith Soft, Nintendo SPD et Monster Games et édité par Nintendo au départ sur la Wii le 10 juin 2010 au Japon, le 19 août 2011 en Europe, le 1er septembre en Australie et le 6 avril 2012 en Amérique du Nord. La version Nintendo Switch titrée Xenoblade Chronicles Definitive Edition est annoncé lors du Nintendo Direct du 5 septembre 2019 et il est sorti le 29 mai 2020, donc tout récent. Xenoblade Chronicles relate la guerre entre les hommes et les machines provoquée par un affrontement entre les grands dieux Bionis et Mekonis. Immobilisés alors que leur lame entrait en contact, leur corps abrite désormais deux nations rivales, les Homes et les Machines. Le héros Shulk est un jeune garçon qui hérite d'une arme surpuissante nommée Monado, capable de prédire l'avenir. Le jeu est classé PEGI 12 et il obtient une note de 18 sur 20 de la part de jeuxvideo.com et de 8 sur 10 de la part de Gamekult. Si les jeux vidéo se limitaient auparavant à des introductions et des écrans titres fixes, l'évolution technologique a permis aux créatifs de parfaire la mise en scène de ces séquences et il n'est plus rare d'être interpellé par des images avant même de démarrer le jeu. Les concepteurs savent nous happer et Xenoblade Chronicles fera sans doute partie des exemples que l'on citera dans quelques années. Alors qu'une légère brise danse avec la végétation, une douce mélopée au piano s'élève sur l'image de l'épée Monado plantée dans le sol, d'une plaine figée par le temps, le tout avec un cycle jour-nuit du plus bel effet. Plusieurs années après, l'impact demeure le même et on reste de longues minutes à regarder ce beau tableau en écoutant le thème de Yoko Shimomura. Mais au-delà de ce sublime écran-titre, il est important de s'intéresser aux contours de ce Xenoblade Chronicles Definitive Edition et de son épilogue qui s'étend sur de longues heures. La Switch a-t-elle eu raison d'accueillir ce remaster ? Alors, chef-d'œuvre de la ludothèque, oui, Xenoblade Chronicles a marqué les esprits grâce à ses paysages magnifiques, ses personnages hauts en couleur, ses émotions fortes et ses affrontements épiques. Toutefois, et malgré ses innombrables qualités, le jeu de Monolith a souffert d'un caractère design très particulier, notamment entaché de textures faiblardes. En 2010, ce défaut a fait le tour du monde et il n'était pas rare de lire l'incompréhension des joueurs sur les forums de toute la planète, alors même que le jeu n'était pas disponible en Occident. Inévitablement, le phénomène est remonté jusqu'aux développeurs et la création de cette nouvelle version est aussi, pour le studio, une manière d'effacer cette réputation qui leur colle au basque depuis des années, à savoir de talentueux graphistes mais qui peinent à représenter de manière réaliste leurs protagonistes. Bref, tout ça pour dire que Xenoblade Chronicles Definitive Edition propose des personnages bien plus réussis et des décors plus denses et détaillés. La bande-son de son côté est toujours aussi merveilleuse et profite pour certains thèmes d'une réorchestration et d'une réharmonisation des partitions initiales. Ces améliorations concrètes de la réalisation participent à la redécouverte du jeu original, la mise en scène en sort grandie et il est même possible d'opter pour les voix japonaises. Le doublage nippon est excellent, bien sûr, et apporte une profondeur supplémentaire aux protagonistes, de quoi profiter pleinement de chaque moment fort d'un jeu qui n'en manque pas. Même si la technique évolue très vite, la qualité d'une œuvre ne doit logiquement pas dépérir à mesure que le temps passe. Xenoblade Chronicles a beau avoir 10 ans, il n'a rien perdu de sa superbe. Tant dans le ton, la mise en scène ou les thèmes abordés, l'œuvre de Monolith accroche le joueur et parvient grâce notamment à son équilibre entre cinématique et phase de gameplay, à nous happer du début à la fin. Si le charisme des personnages sera désormais sujet à débat, ses mécaniques demeurent, elles, toujours aussi efficaces. La combinaison des arts, la liberté laissée aux joueurs dans l'exploration des lieux, le lien qui unit chaque protagoniste avec les tête-à-tête qui matérialisent la progression des relations, Les divers enchaînements, l'évolution des compétences, tout a été pensé dans les moindres détails par l'équipe de développement. Le jeu a aussi la bonne idée de distiller une petite approche tactique, notamment lorsqu'on fait face à des adversaires très imposants, qu'il faut faire chuter ou breaker pour les rendre vulnérables et prendre l'avantage. Le placement de chaque membre de l'escouade est également vital pour venir à bout des opposants les plus résistants, dans le sens où la position influe sur les dégâts et les effets. Et c'est évidemment un plaisir de retrouver le principe des visions qui permet de contrecarrer les plans futurs de l'ennemi. Sur de nombreux aspects ludiques, le titre n'a décidément pas grand-chose à envier au jeu du moment. Xenoblade Chronicles était une œuvre majeure de la Wii et il est vrai que les productions actuelles peuvent rendre caduques certains de ses aspects, mais ses faiblesses ne sont qu'une étincelle sur la carcasse d'un mecha. L'affichage s'apparente dans l'esprit à celui de Xenoblade Chronicles 2, avec une résolution logiquement moindre en mode portable. Donc ce qui est un peu dommageable, c'est que la résolution n'est pas stable, mais aussi entre 504p et 720p sur téléviseur, et 378p, soit moins que la Wii, et 540p en mode portable. Heureusement, l'animation tourne à 30 images par seconde et tient le choc lors des phases d'exploration dans de vastes espaces. En mode portable, les concessions sont tout de même bien visibles avec une profondeur de champ revue à la baisse et une sensation de flou sur certaines textures. Sur la télé, ces défauts ne disparaissent pas mais sont atténués, mais que l'on ne s'y trompe pas. Comme bien souvent, on oublie rapidement ses tares dans le feu de l'action et le jeu reste globalement agréable à regarder. Il faut juste éviter de se coller le nez sur l'écran. Bon, en même temps, même sans jouer à ce jeu, évitez quand même de coller votre nez à l'écran. C'est pas bon pour vos yeux. L'intérêt de cette nouvelle version réside en grande partie dans son chapitre inédit intitulé « Un avenir commun ». Se déroulant sur l'épaule de Bionis, cette histoire secondaire relate la lutte de Shulk et ses compagnons contre le roi des brumes, cette entité ténébreuse qui a pris possession de la capitale impériale d'Alkamoth, émet un pouvoir maléfique qui transforme les créatures du monde, qu'elles soient pacifiques ou hostiles, et les rend bien plus puissantes. Face à un tel monstre, la vaillante escouade va devoir trouver des leviers pour ramener la paix dans les populations environnantes. Donc bien évidemment, la trame qui joue avec des flashbacks et des clins d'œil est riche en rebondissements et ne manquera pas de vous mettre en difficulté face à des créatures aussi gigantesques que sournoises. Mais je vous laisse bien sûr découvrir le fil des événements par vous-même. L'autre nouveauté et non des moindres provient du gameplay. Plutôt que de faire un copier-coller de ce qui existait déjà, les développeurs ont choisi de bouleverser nos habitudes. Les visions de Shulk sont désormais indissociables de l'original et elles ont totalement disparu. Même chose pour les compétences et combinaisons d'équipes que l'on aimait tant dans Xenoblade Chronicles. À la place, les personnages qui débutent au niveau 60 peuvent faire évoluer leurs arts, des aptitudes qui octroient des capacités supplémentaires, ou même user de la pioche pour extraire de l'éther grâce aux gisements que l'on trouve un peu partout sur la map. Il est aussi possible d'échanger des emblèmes contre de nouveaux grimoires pour booster le potentiel de ses avatars. Certains pourront trouver les ajustements un peu légers, voire même être déçus, mais Monolith a voulu adapter ses mécaniques de jeu par rapport à la puissance des personnages. Dans cet épilogue, Shulk n'a en effet plus rien à voir avec le jeune combattant débutant qu'il était dans l'original. Pour le reste, le cycle jour-nuit est toujours de la partie, tout comme les tête-à-tête. Dans l'histoire, vous serez très vite rejoint par un duo de nopons très marrants. Il s'agit de Kino et Néné. Ces deux-là, en plus de mettre en avant l'excellence de la traduction, participent à adoucir l'ambiance et il n'est pas rare de sourire devant leurs bêtises. Les nopons dans Xenoblade Chronicles Definitive Edition ont d'ailleurs un rôle encore plus important puisqu'ils prennent la forme d'une guilde appelée les Ponspecteurs, qui est spécialiste dans l'analyse des terrains. Donc concrètement, ces topographes d'élite sont originaires du village frontière et permettent d'accéder à des attaques spéciales supplémentaires. Pour en profiter, il faut les trouver au cours de votre exploration et les recruter en réussissant les défis qu'ils vous proposent. Chaque ponspecteur dispose d'une couleur qui correspond à une approche, rouge pour l'offensive, bleu pour le soin et enfin jaune pour tout ce qui gravite autour des handicaps causés aux ennemis. Et ce qui fait leur force, c'est qu'ils agissent comme de véritables petits soldats. Ils suivent le groupe, participent au combat et peuvent même, le cas échéant, passer dans une sorte d'état de furie. Cette super attaque porte le nom de Operapon Spécial et s'obtient en recrutant des ponspecteurs de la même couleur. Plus vous recrutez des créatures, plus la puissance de l'attaque est dévastatrice. L'intérêt de cette méga offensive est de toucher plusieurs ennemis à la fois et il existe trois types d'attaques. Donc l'attaque comète qui est focalisée sur un seul ennemi mais qui prend bien cher. L'attaque confort qui soigne et efface les effets d'altération en plus de régénérer le groupe. Et enfin on a l'attaque KO, une giga attaque à portée multiple. Tous ces aspects du jeu sont importants à cerner car ils octroient, selon les mécaniques, des tours supplémentaires. Donc au départ, on peut s'en passer, mais cela devient rapidement une véritable option pour se dépêtrer des boss les plus tenaces, enfin, surtout en mode difficile. Pour s'adapter à chacun, aussi bien les puristes que les novices, Monolith Soft propose un mode facile et une batterie d'options pour alléger le périple. Mais que les durs à cuire se rassurent, les développeurs nippons ont intégré un mode expert qui instaure un nouveau principe. Une partie des XP gagnés est mise de côté pour être utilisée ultérieurement au lieu d'être dispatchée entre chaque membre du groupe. Cette réserve de points d'expérience apporte une dimension stratégique supplémentaire vraiment intéressante puisque vous pouvez ajuster quand vous le souhaitez le niveau de vos personnages. Donc si vous souhaitez réduire le niveau d'un protagoniste pour augmenter votre réserve d'XP, vous pouvez. Inutile de dire, mode expert oblige que toutes les rencontres avec des ennemis deviennent un parcours du combattant et on ne parle même pas des boss. L'autre ajout qui fera plaisir à beaucoup, c'est l'intégration d'un mode time attack dont le but est de vaincre des monstres dans un temps imparti. Ce mode qui ne se débloque pas tout de suite s'obtient en entrant dans les boules de lumière que l'on trouve ça et là. À l'intérieur du sanctuaire, le grand sage vous invite à choisir entre deux options. Un mode libre qui permet de choisir les personnages de son choix et un mode fixe qui choisit les compagnons qui vont vous suivre. Les gemmes noponiques acquises par la réussite de ces défis offrent la possibilité de faire du troc pour glaner de nombreuses récompenses, de quoi booster son équipement pour la suite des événements. De base, Xenoblade Chronicles est un jeu fantastique qui se voit aujourd'hui retravaillé et adapté sur la Switch. Si la partie visuelle peut être sujette à questionnement, tout le reste n'a pas perdu une once de son aura. Mieux, le contenu déjà gargantuesque est enrichi par un épilogue qui s'étend sur une bonne dizaine d'heures, auquel se greffe du challenge supplémentaire et un mode contre-la-montre. L'interface a même été revue pour plus de confort, donc dans ces conditions et malgré les années qui ont passé, il apparaît difficile de terminer sur une mauvaise note. Donc pour résumer les points positifs, on a une traduction excellente, des musiques exceptionnelles et réorchestrées pour certaines, des paysages immersifs et très différents les uns des autres, un caractère design à la touche manga affiné, le challenge du mode expert, l'apparition du mode contre-la-montre, l'incroyable sensation de liberté, le bestiaire varié, la direction artistique de qualité, un gameplay qui est toujours à l'ordre du jour, une durée de vie dantesque avec plus 10 à 15 heures pour l'épilogue, les doublages japonais disponibles, l'épilogue et ses ajouts et ses ajustements. Et on a aussi Kino et Néné qui sont craquants et très drôles, et les ponts spectres. Pour les points négatifs, on a des quêtes annexes sans grand intérêt pour la plupart, les satanés aller-retour, l'affichage pas toujours au top, il faut se contenter d'un 30 images par seconde, et on a des combats un peu brouillons par moment. Voilà, on va pouvoir tout de suite s'écouter une musique extraite de l'OST du jeu Xenoblade Chronicles Definitive Edition. C'est Colony 6 Future, donc qui a été composé par Yoko Shimomura, Manami Kiyota, Ace Plus et Yasunori Mitsuda. Et on revient juste après. We'll be right back. c'était la musique Colony 6 Future, une musique extraite de l'OST du jeu Xenoblade Chronicles Definitive Edition, une musique qui a été composée par Yoko Shimomura, Manami Kiyota, Ace Plus et Yasunori Mitsuda. On va faire une petite pause publicité et on viendra juste après pour parler des tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, du news jeux vidéo, du news technologie et on finira avec les sorties de la semaine. À tout à l'heure.
À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Rebonsoir, re-bienvenue sur Neptune FM pour la deuxième partie de l'émission Cordialement Geek. On va tout de suite commencer avec les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Donc le top 5 qui fait aussi top Nintendo Switch. On a en cinquième place 51 Worldwide Games, un jeu sur Nintendo Switch et un jeu de Nintendo. De toute façon, c'est que des jeux sur Nintendo Switch et que des jeux de Nintendo, donc ça ira plus vite de pas le dire. En quatrième place, on a Xenoblade Chronicles, la Definitive Edition. En troisième place, c'est Mario Kart 8 Deluxe. En deuxième place, Ring Fit Adventure. Et en première place, Animal Crossing New Horizons. Le top 3 pour la PS4, on a en troisième place GTA V, l'édition Premium. En deuxième place, c'est FIFA 20. Et en première place, Final Fantasy VII, le Remake. Pour la Xbox One, on a en troisième place FIFA 20, en deuxième place Forza Horizon 4 et en première place Call of Duty Modern Warfare. Le top 3 pour PC, on a en troisième place Pro Cycling Manager 2020, en deuxième place c'est Red Dead Redemption 2 et en première place les Sims 4, l'édition standard. Le dernier top, c'est le top 3 Nintendo 3DS avec en troisième place Mario Kart 7, en deuxième place Yo-Kai Watch 3 et en première place Animal Crossing New Leaf, Welcome Amiibo, Select. On passe maintenant à la news jeux vidéo. Après Fort Boyard, Microhits s'attaque à une autre émission télé à succès. Les aventuriers de Koh-Lanta auront donc bientôt droit à une nouvelle expérience vidéoludique. Big Ben Interactive et Manscaped, merci pour ce petit bête, avaient déjà proposé leur adaptation de Koh-Lanta en jeu vidéo entre 2008 et 2012. C'est aujourd'hui Microhits qui se porte volontaire en accord avec la société ALP. Donc aucun titre n'est encore indiqué pour le moment et des précisions sur le contenu restent attendues. Nous savons juste pour le moment qu'il sera possible d'incarner des naufragés et de revivre les classiques épreuves de confort et d'immunité dans un jeu proposé aux familles. Présenté comme fidèle à l'émission et à ses règles, il invitera les joueurs, seuls ou avec des amis, à améliorer leur camp et à remporter des victoires pour atteindre le défi ultime des poteaux. Stéphane Longeard, PDG de Microhits, a déclaré, je cite, « Nous sommes heureux de la confiance que nous témoigne ALP pour adapter en jeu vidéo une autre de leurs licences phares. La signature de la licence Koh-Lanta s'inscrit dans notre logique éditoriale de proposer aux familles des aventures vidéoludiques issues d'univers à fort potentiel et capables de rassembler plusieurs générations. Le jeu sera donc disponible en 2021 sur console de salon. » Voilà, on n'en sait pas plus pour le moment, mais à voir l'année prochaine. Voilà, on passe maintenant à la news technologie. Une équipe internationale de chercheurs est récemment parvenue à mettre au point le premier prototype d'œil artificiel en 3D, reproduisant la structure d'un œil biologique hémisphérique et susceptible de surpasser les facultés humaines. L'œil humain est un organe sensoriel incroyablement complexe. Il n'est donc pas étonnant que les chercheurs aient du mal à recréer artificiellement ses propriétés. En matière d'œil bionique, les versions les plus avancées à l'heure actuelle sont celles de sociétés comme Bionic Vision Australia ou Second Sight, se composant d'une paire de lunettes pourvues d'une caméra centrale. Les données capturées sont ensuite traitées par une petite unité externe avant d'être envoyées à l'implant rétinien de l'utilisateur. De là, les signaux sont transmis au centre visuel du cerveau. Donc bien que ces dispositifs fonctionnent, des utilisateurs ayant perdu la vue déclarant avoir perçu des flashs lumineux pour la première fois depuis des années, il s'avère quand même assez encombrant et la vision offerte n'est pas suffisamment claire pour permettre à leurs porteurs de se repérer correctement dans l'espace. Certaines recherches ont par ailleurs montré que ce type de technologie pouvait produire des images persistantes et se révéler trop lent pour capter les mouvements rapides. C'est ici qu'intervient l'Electrochemical Eye, ou ECI, prototype d'œil artificiel en 3D développé par une équipe de l'Université des sciences et technologies de Hong Kong en collaboration avec des chercheurs de Berkeley. Plutôt que d'utiliser un capteur d'image bidimensionnel comme une caméra, ce dispositif prometteur récemment présenté dans la revue Nature s'appuie sur une rétine artificielle. Donc celle-ci intègre un réseau de capteurs de lumière imitant les photorécepteurs des rétines humaines. qui se trouve relié à un faisceau de fil en métal liquide faisant office de nerf optique. Bien qu'il s'agisse à l'heure actuelle d'un prototype sur table, l'ECI est d'ores et déjà en mesure de capter des images relativement claires. Lorsque le dispositif est placé devant un écran d'ordinateur affichant de grands caractères, il est en mesure de transmettre un signal visuel assez net pour que les lettres puissent être aisément distinguées et lues. Selon les concepteurs, les améliorations apportées à moyen terme, donc environ 5 ans, pourraient lui permettre d'atteindre, voire de dépasser les facultés humaines, avec une vision plus nette et la capacité de détecter le rayonnement infrarouge dans l'obscurité, en d'autres termes, la vision nocturne. Parmi les applications envisagées, l'électrochimical eye pourrait évidemment être greffé directement sur des sujets atteints de cécité et malvoyants, de façon à pallier leur handicap, mais il pourrait également être utilisé dans le domaine de la robotique afin d'offrir une acuité visuelle sans précédent aux machines humanoïdes en étant pourvues. Les auteurs de l'étude prévoient également de miniaturiser le dispositif qui pourrait à terme se passer d'alimentation et de circuits externes avec une rétine artificielle faisant également office de cellule solaire. Pour l'équipe, la prochaine étape consistera à améliorer la définition du prototype et à s'assurer que celui-ci soit biocompatible en collaborant avec des experts de la recherche médicale possédant une expertise pertinente en optométrie et en prothèses oculaires. Le prototype actuel connaîtra donc de nombreuses améliorations dans les années à venir. On va maintenant finir l'émission avec les sorties jeux vidéo de la semaine. On a eu deux sorties aujourd'hui vendredi 19 juin avec The Last of Us, la partie 2 sur PS4 et The Academy sur PC, PS4 et Nintendo Switch. On aura une sortie demain samedi 20 juin avec Double Dragon and Kunio-kun Retro Brawler Bundle, qui sortira sur PC et Nintendo Switch. Lundi 22 juin, on aura Kingdom Hearts Dark Road, qui sortira sur iOS et Android. Mardi 23 juin, on aura Bob l'éponge Bataille pour Bikini Bottom Réhydraté, qui sortira sur PC, PS4 et Nintendo Switch. Et Prison Architect Island Bound, qui sortira sur PC, PS4 et Nintendo Switch. On aura deux autres sorties pour mercredi 24 juin avec Ninjala sur Nintendo Switch et Pokémon Café Mix qui sortira sur Switch, iOS et Android. Les dernières sorties de la semaine, ça sera pour jeudi 25 juin avec Anno Historic Collection qui sortira sur PC, Borderlands 3 Prime de Sang, la rédemption par les points qui sortira sur PC, PS4 et Xbox One, Hunting Simulator 2 qui sortira sur PC, PS4 et Nintendo Switch, Fort Boyard, nouvelle édition qui sortira sur PC, PS4 et Nintendo Switch. Brigandine, The Legend of Runeterra sur Nintendo Switch. Days Come True sur PC, PS4 et Nintendo Switch. The Almost Gone sur PC, Switch et Mac. Phantom Covert Ops qui sortira sur PC. Et enfin, on aura Mr. Driller Drilland qui sortira sur PC et Nintendo Switch.
Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo sur Neptune FM.
Donc voilà, c'est ce qui termine l'émission de Cordialement Geek de cette semaine. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour l'émission Cordialement Geek, mais aussi pour mon autre émission Asian Bubble, que vous ne retrouverez malheureusement pas lundi prochain. Ça sera le lundi suivant. Et Cordialement Geek, ça sera le vendredi aussi suivant, voilà, dans deux semaines. Du coup, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, et à bientôt.
Retrouvez Cordialement Geek chaque vendredi à 18h30 avec Loli sur Neptune FM. À retrouver en podcast sur neptunefm.com.